franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, les mécanismes de la faim et de la satiété avec Marie Thirion.
Il y a deux grands mécanismes. Et vraiment, bon, on peut les séparer artificiellement. En pratique, ça se joue dans le même temps.
Oui.
Le premier mécanisme, c'est le cerveau qui dialogue, qui discute avec le tube digestif. C'est-à-dire qu'il va envoyer un signal, et si tu allais manger maintenant ? Il est temps d'y aller.
Mmh.
Alors, un peu pour des besoins énergétiques, beaucoup pour d'autres raisons, comme on vient de le voir, des raisons d'habitude. Et à ce moment-là, il y a les deux signaux que je viens de vous citer, la salivation et la gréline. Dès que l'aliment rentre dans l'estomac, l'estomac va réagir instantanément par un flash, mais vraiment un flash, un éclair, hein, très court, d'une autre hormone qui s'appelle la leptine, qui, elle aussi, va directement au cerveau. Elle peut passer la barrière hémato-encéphalique et qui va informer le cerveau, ça y est, ça rentre. Pour l'instant, c'est non sélectif. Et puis après, tout au long du tube digestif, il va y avoir une série de circuits hormonaux qui vont envoyer des messages au cerveau. D'abord, l'aliment en rentrant, la glycémie va monter tout de suite. Et si la glycémie monte, le cerveau va savoir que le sucre arrive et que le sucre monte. Ensuite, comme le sucre monte, le pancréas va réagir. Il va envoyer de l'insuline. Le cerveau va capter ce signal que l'insuline a augmenté. Donc, on sait que des sucres sont arrivés et que le corps est prêt à le gérer. L'insuline, c'est fait pour ça. Après, un peu plus bas, au niveau du duodénum, vous avez la cholécystokinine qui, elle, va être sécrétée. Bon, elle agit à d'autres niveaux, en particulier cérébral. Mais là, je vous parle du dialogue tube digestif. Elle va être sécrétée en pourcentage des graisses qui arrivent, et en particulier des bonnes graisses. Elle va dire, oh, il y a des bonnes graisses qui passent. Vous savez, les oméga 3, les longues chaînes, etc. Donc, il y a des graisses qui passent. Et puis après la digestion, quand les aliments, les protidiques, sont réduits en acides aminés, ils vont être captés par la veine porte pour aller vers le foie, puisque c'est le foie qui récupère tout ça. Et dans la veine porte, il y a encore des petits récepteurs opioïdes qui vont dire « Oh, j'ai vu passer des protéines, j'ai vu passer des peptides protidiques. » Donc, le cerveau sait que tout est passé.
Mardi, comment les tiques nous infectent et nous rendent malades, avec Chantal Perrin et Muriel Vessier.
Le mode de transmission, est... on pense que la personne a peut-être pas vu la larve minuscule qui l'a piquée, mais en même temps, on n'en sait rien. Donc, il y a un problème certainement à la base de faiblesse du système immunitaire, de charge toxique qui peut être, ça peut être tout ce qu'on respire, tout ce qu'on mange et tout ce, et puis les métaux lourds, etc. Donc, c'est ce qui fait que la maladie est compliquée à soigner, c'est pas uniquement la charge infectieuse, c'est aussi cette charge toxique. On se retrouve souvent devant des malades qui sont malades depuis une vingtaine d'années et à qui on ne peut pas donner un traitement antibiotique d'emblée tellement ils sont affaiblis, d'où la complexité de cette maladie.
Muriel Vessier, ce message de Nicole qui nous dit ceci en forêt de Fontainebleau, beaucoup de tiques de différentes tailles, de très petites tailles d'une tête d'épingle, est-ce qu'elles sont aussi dangereuses que les plus grosses ?
Alors en fait, effectivement, il y a trois stades de tique. La larve, qui est une sorte de bébé tique, qui est vraiment minuscule, qu'on voit à peine. La nymphe et l'adulte. Et en fait, ces tiques vont s'infecter au moment de leur repas sanguin, lorsqu'elles le prennent sur des rongeurs en général ou des oiseaux. Ouais. Et plus la tique est grosse, on va dire, plus le risque de transmission est grand. Donc chez la larve, c'est très peu. Le risque est très minime. Chez la nymphe, c'est très important. Et ce que disait Chantal est vrai, c'est que souvent, lorsqu'on se fait piquer par une tique, on s'en aperçoit pas parce que la piqûre de la tique est indolore. Donc la tique va pouvoir rester et se gorger de sang pendant plusieurs jours sans qu'on s'en aperçoive. Et comme les nymphes sont toutes petites, il y a très peu de chances pour qu'on s'en aperçoive. Et lorsqu'elles tombent, elles peuvent tomber et on ne s'est jamais aperçu qu'on s'est fait piquer par une tique. Mmh. Ensuite, il y a le stade adulte qui est aussi très porteur de ces microbes. Mais lui, il est plus gros et en général, on s'en aperçoit. Et plus vite on enlève la tique, plus le risque d'être contaminé est faible.
Mercredi, comment faciliter la prise de décision collective avec Sébastien Boller et Corinne Egel.
ça peut pas se faire à 100, un raisonnement collectif. Voilà, donc la notion de taille critique est au carrefour.
Alors là, on est en train de poser le cadre, justement, Corinne Hegel, avec cet aspect-là qui est absolument prépondérant, justement, dans cette intelligence du groupe.
Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en facilitation, ce qu'on fait, c'est qu'on forme des tout petits groupes dont on fait émerger une idée qu'on va ensuite confronter aux autres idées des tout petits groupes autour. Et ensuite, on réunit cet ensemble d'idées pour en faire un produit fini. Mais effectivement, on limite aussi les groupes à moins de 8, moins de 10, parce que c'est important.
Larry demande sur franceinter.fr, la présence d'un chef dans un collectif n'empêche-t-il pas irrémédiablement l'expression justement de cette intelligence collective ?
Eh bien là aussi, on pose le cadre, c'est-à-dire que dans cette prise de décision, ou en tout cas quand on veut faire émerger l'intelligence collective, on donne un rôle au chef qui n'est pas le rôle, et vous le dites très bien d'ailleurs dans votre dossier de Cerveau et Psycho, qui n'est pas le rôle managérial habituel, hiérarchique, mais qui est plutôt un rôle de leader.
De leader, oui, absolument. Oui. Sébastien.
Voilà, c'était la distinction que tenait à établir Dominique Oberlé, c'est-à-dire que un chef n'est pas un leader n'est pas un chef, on ne peut pas confondre les deux notions. La distinction qu'elle opère, c'est qu'elle dit que le chef est toujours en fait désigné par un autre chef. Il y a une chaîne de commandement, c'est très statutaire et on sait qui est le chef et on sait quelles sont ses attributions et on sait à qui il rend compte. Alors qu'un leader, idéalement, la définition de leader, c'est qu'il est choisi plutôt par son groupe, il émerge du groupe. Voilà. Et donc il ne se situe pas au-dessus de la masse et donc il ne va pas inhiber aussi certaines prises de parole ou il ne va pas provoquer certains biais aussi cognitifs comme la pensée moutonnière, c'est-à-dire que si le chef a dit quelque chose, on n'ose pas dire le contraire, on s'engouffre.
C'est
voilà.
Exactement le contraire qu'on recherche. D'ailleurs.
Exactement. Donc, il ne faut pas que l'animateur d'une réunion se pose en chef, parce que là, il écrase complètement la diversité des points de vue qui sont exprimés. Il faut qu'il se pose plutôt en coordinateur, en gardien effectivement des règles, du formalisme, que ce soit du temps de prise de parole ou d'autres techniques pour multiplier les idées qui peuvent émerger du groupe, plutôt comme facilitateur, comme le mot est venu, plutôt que comme véritable chef au sens où on l'entend statutairement.
Jeudi, la pizza bientôt au patrimoine immatériel de l'UNESCO avec Claude Fischler et Sylvie Sanchez.
C'est relativement récent et il a fallu finalement ce détour par les États-Unis pour que, à la fois en Italie et en France, les gens s'agitent et disent que maintenant la pizza c'est à eux, ils ont leur modèle à eux, etc.
Et en réaction, comme vous le disiez justement, au hamburger, alors il faudra attendre 2017 pour voir si cette inscription auprès de l'UNESCO fonctionne ou pas.
Oui, alors c'est pas en réaction au hamburger, c'est en réaction à ce que prétend faire McDonald's, c'est-à-dire enfin le hamburger, pardon. L'idée, c'est que comme ça fait au moins une quinzaine d'années que l'enseigne de hamburger qu'on connaît tous essaie de proposer aux Italiens des pizzas. Donc il y a eu la pizza Mia et la Mac Pizza qui ont été des flops abominables et comme ils n'y arrivent pas, là ils ont initié un nouvel épisode avec un spot publicitaire où ils montrent un enfant qui est avec ses parents dans une pizzeria qui fait la tête parce que qu'est-ce qu'il veut ce petit, donc petit italien, il veut un Happy Meal. Et donc la séquence suivante, on voit le petit italien qui est effectivement dans l'enseigne de burger et qui est très content. Donc les Italiens se sont sentis complètement insultés par cette publicité et ça a déclenché ou nourri en tout cas ce dépôt de dossier à l'UNESCO.
Voilà.
Maintenant, je veux juste ajouter un mot sur ce dossier. Ce qui me paraît intéressant, c'est que là, ce qui est défendu, c'est l'art du pizzaiolo. Ça n'est même plus la pizza, c'est l'art du pizzaiolo. Pour la pizza napolitaine, on avait déjà eu la demande d'appellation protégée déposée par la mairie de Naples. Et là, on passe au geste. Donc, on veut vraiment accéder à l'immortalité, à l'immatérialité d'une humanité commune. Enfin, c'est on est au-delà de toute cette industrie, de toute cette cacophonie.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.